Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors, ce sera salle de réunion pour mes 3 docteurs aujourd'hui. Pas d'opération en cours. On lâche le bistouri pour phosphorer en groupe. Le sujet de cette réunion est un rapport avec le célèbre docteur Robert qui vient de parvenir justement à notre clinique de House, Mabuse et Jekyll, la SA Portrait Limited. Bon, l'illustre Robert définit le sujet ainsi. Le marais, nappe d'eau stagnante recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation. Mais le docteur Robert nous renvoie à d'autres définitions. Étang, marécage, marigot et tourbière. Cela se corse, me semble-t-il. On oublie Jean Marais et le quartier du Marais, cher à quelques riches notables bien connus. Pour aller visiter des lieux incultes et humides où s'entendent les marais ou encore les bras morts de fleuves. Cela nous conduit au centre aussi. Mes chers docteurs vous diront pourquoi. Nous parlerons de la faune locale qui peut abriter des grenouilles, pas si innocentes qu'elles semblent l'être. Il y aura aussi peut-être des caïmans et des crapauds plus inquiétants. Dans la salle de réunion de la clinique, la tension monte d'un cran. Ils sont là, et je suis au centre. À ma gauche, House, affûte ses arguments sur les batraciens peut-être. À ma droite, Mabuse, pense peut-être que le centre n'existe toujours pas et n'est qu'une illusion républicaine sans fondement. Et tout là-bas, à la droite de Mabuse, sourit Jekyll, qui n'a jamais cru qu'une quelconque place dans un hémicycle puisse représenter pleinement une pensée. Il se fait fort de faire sauter les lignes marécageuses pour nous conter l'histoire de ce marais où cohabite le marigot de bien des pouvoirs. Ils vont, mes 3 docteurs, nous entraîner dans l'exercice délicat de leur profession de funambuliste pour voir si au centre il n'y a rien ou alors tout. C'est selon où se place l'observateur. Mais aussi, ils n'hésiteront pas, une fois de plus, à mettre les pieds dans le marécage. Alors, en avant! Eh bien, on commence, comme tous les samedis, par notre docteur Mabuse, peut-être le plus courageux pour se jeter dans ce marécage.
Oui, je suis un piètre nageur en eau trouble. Le marais. Une expression qui pourrait paraître péjorative quand elle est appliquée à une partie de l'électorat. Si l'on songe qu'elle décrit un espace marécageux, mal entretenu, auberges approximatives, voire dangereuses, au fond vaseux et à l'odeur fétide. Ce sens figuré est significatif de ce que le pouvoir pense des électeurs et surtout de la démocratie, qui dépendrait du comportement de ce marais, capable de changer d'avis comme une girouette change de direction. Mais, comme le disait Edgar Faure, ancien président du Conseil et ancien président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la girouette qui tourne, mais le vent. Ce marais servirait de force d'appoint, selon les circonstances, à la gauche ou à la droite pour assurer une majorité. Si c'est le cas, il se situerait au centre. Les grenouilles qui peuplent cet espace politique ne se manifesteraient qu'en s'associant. J'ai du mal à imaginer Borloo et Bayrou, 2 crocodiles dans le même marigot, en grenouilles. À moins qu'ils ne veuillent se faire plus gros que le bœuf à la tête d'une armée décervelée, incapable de penser par elle-même. Quelle misère! Décidément, la démocratie est en danger. La tendance serait plutôt que les grenouilles restent dans le marais, à manger les moustiques, dont le rôle est normalement d'exciter par leurs piqûres les citoyens mécontents. Le danger est double. Le premier, qu'il ne reste que les moustiques transmetteurs de la maladie du sommeil, rendant les électeurs indolents et soumis, ou que, lassés du mépris, les grenouilles ne décident la révolte qui les mènerait inévitablement à la casserole. L'histoire montre que les grenouilles finissent toujours par se faire manger, prouvant qu'en matière de démocratie, les grenouilles à la crème ne sont pas qu'une spécialité française. Moralité, à chacun son marais nostrum.
Eh ben voilà, alors ces pauvres grenouilles, tu sais, souvent on n'en mange que les cuisses hein, en plus, on n'en mange pas en entier, les pauvres grenouilles.
C'est ce que les hommes politiques appellent un droit de cuissage.
Voilà, un droit de cuissage, ça ils l'ont souvent en effet. On va demander à ma gauche, donc à notre docteur House, quelle est son opinion sur ce marais, ce marécage, cet espace.
Oh, plus qu'une opinion, je vais vous donner un sentiment. Le marais est composé de terres spongieuses et vaseuses, d'eau dormante et saumâtre. On peut y découvrir une concentration exceptionnelle d'insectes bruissants, de batraciens, de rampants sinuants, lisses et gluants, de petits mammifères aux dents acérées et de drôles d'oiseaux. Ces petits êtres savent s'adapter à la diversité d'une nature sauvage et à la beauté hostile. Le marais avait ses labyrinthes, ses impasses, ses perpétuels entre deux, un pied mouillé, un pied au sec, n'a jamais été pour moi le centre de mon intérêt, ni même de mes attentions.
Ah, ben voilà, voilà, voilà. Donc, notre docteur House, lui, il ne fréquente pas ce genre de marais. Alors, il nous reste Jekyll qui va peut-être mettre tout le monde d'accord.
Marais, parisien et vosgien. Marais, atlantique et bretonne. Marais, pourvu qu'elle soit publique. Enfin, vraiment, votre doctitude me fait définitivement marrer. À force de grenouiller dans le Landerneau citadin, vous allez finir votre existence dans quelques marécages, du côté des collines de l'amour, ou dans les profondeurs de quelques flaques d'un sang qui ne saurait être le vôtre. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, il faudrait savoir de quoi on parle. Le vocable « marais » apparaît dans la sphère linguistico-politique durant les riches heures des prémices de la Révolution française. Ce sont une poignée d'énervés clobards qui s'étripent entre jacobins et girondins, entre montagnards et enragés. Bref, entre socialistes et communistes, si j'ose cet anachronisme, une poignée, disais-je, qui rejette les aristos bourgeois dont ils sont les héritiers et qui pensent déjà à en finir avec cette révolution dite française et entendent en rester à celle que François Furet a cataloguée de révolution atlantique. Et de les affubler depuis du pire des maux, celui de centristes. Or, qui étaient ces braves gens ? Lafayette et ses amis désœuvrés. Eux qui avaient permis aux Américains, déjà incapables de gagner une guerre tout seuls, de l'emporter sur les rosbifs et de créer les États-Unis d'Amérique. États-Unis, dont chacun s'accorde à dire que ce serait la première puissance démocratique, quoique libérale, de l'histoire. De ces couillons qui prétendaient faire le bonheur du peuple avec son consentement et non malgré lui. N'est-ce pas, mes amis hollando-polpotiens ? Pourtant, les uns depuis 1889 et l'international socialiste réformiste, les autres depuis l'abandon de la dictature du prolétariat lors du 22e congrès du Parti communiste en 1976, ont renié les fondamentaux révolutionnaires et sont devenus, bon an mal an, les apôtres d'un consensus mou plus ou moins réformiste. Ce qui permit à Valéry Giscard d'Estaing de proclamer en 1976 « Deux Français sur trois sont au centre » et à François Mitterrand de se faire le chantre d'une démocratie dite apaisée. Autrement dit, tous ces bons messieurs qui galvaudent le terme de « camarades » traînent leur honte, comme d'autres leur mauvaise conscience, car ils ont plongé, tels des grenouilles, dans un ruisseau, enfin dans le marais. Alors, puisque la France s'est pris des institutions, même déjà jacobinisées, dans la vase marécageuse, faut pas s'étonner que les gens, ces salauds, regardent vers d'autres cieux. Bleu marine. À samedi prochain, si tout va bien.
Si tout va bien, ça a l'air d'aller assez mal, en effet, mais la discussion risque d'être animée, je crois, dans notre salle de réunion de notre clinique, où mes trois docteurs, Mabuse, House et Jekyll, ont affûté pas leurs bistouris aujourd'hui, mais leurs arguments. Alors, le centre de quoi ? C'est le centre du monde, c'est le nombril dans le centre, en gros. Mais c'est le nombril ou c'est rien ?
Ouais, moi, j'ai écouté un des docteurs, Mabuse, qui, à propos du marais ou du centre, parlait d'écervelés incapables de penser par eux-mêmes.
Ah oui.
Tu t'es regardé dans une glace ou quoi quand t'as pensé ça ?
Non, je te regardais. mais en réalité, je pense que c'est la vision qu'ont les gens de gauche et de droite d'un centre qu'ils voudraient ne pas exister, puisque s'il y a centre, ça veut dire, comme le disait Giscard d'Estaing, qu'il y a une troisième voie, et donc ça remet en cause le principe de la démocratie, d'une balance, d'une alternance, etc.
Et ta troisième voie depuis toujours, hein, c'est un petit sentier de randonnée. Hein.
Non, mais je n'en dis pas. Mais est-ce que la République radicale, finalement, la troisième République, pour aller vite, ça n'est pas effectivement une démocratie ou une république du marais?
Oui, et puis en 1950, Blum, c'est lui qui avait même inventé la formule de troisième force. Effectivement, et cette troisième force, aujourd'hui on l'appellerait comment? L'UMPS. C'est parce qu'elle excluait d'un côté le Parti communiste, cette troisième force ou la quatrième, et de l'autre, elle excluait les gaullistes qui étaient considérés comme étant à la droite de l'échiquier, ou je ne dirais pas l'extrême droite, mais disons à la droite extrême de l'échiquier politique, même s'ils n'étaient pas tout à fait juste comme pensé. Toujours est-il, cette troisième force qui regroupait la SFIO à l'époque, le Parti radical, les modérés, les indépendants, bon, etc. Bref, en gros, ce qu'on pourrait appeler, ce que Le Pen appelle aujourd'hui, le fameux UMPS.
Le ventre mou.
Alors après, on l'appelait le ventre mou. Jean-Marie Le Pen appelait ça la bande des quatre à l'époque.
Oui,
mais la bande des quatre, House, je suis désolé, mais dans la bande des quatre, il y avait le Parti communiste français qui faisait partie de ce que Marine Le Pen appelle aujourd'hui l'UMPS.
Mais c'était à l'époque où le Parti communiste faisait 20%.
Voilà. C'était à l'époque où le PC faisait effectivement 20%.
C'était à l'époque où le Parti socialiste... regarder avec la tête à l'air et regarder le Parti communiste avec la tête à l'air et voilà.
Et penser qu'il aurait bien du mal à acquérir autant d'électeurs que le PC. Mais l'histoire a prouvé le contraire.
Ceci fut. Mais maintenant, ce qu'il faut quand même regarder.
Bon, on revient au marais.
Oui, on revient au marais. Moi, sur ce que je disais, sur ce que j'ai entendu, donc je partage, c'est qu'effectivement, le marais, le centre, a toujours été une force plus ou moins marginale pour accéder au gouvernement. Mais c'est pas pour autant que... Mais je dénie le mot force en ce sens. Moi. Ça ne contribue en rien au débat politique. Et ils ne font qu'effectivement pêcher...
D'un côté ou de l'autre.
Comme à la tour de Pise, selon où tu la regardes.
Mais non, ils ont l'air de la synthèse.
Oui, moi j'ai tendance à penser...
Du pragmatisme.
Non, mais moi j'ai pas tendance à penser que le centre n'existe pas. Il n'existe que parce que la loi électorale lui permet d'exister. Il suffirait de changer le mode électoral en faisant un mode, par exemple, avec des élections législatives à un seul tour, qui obligerait les forces à se regrouper, et le centre n'existerait plus.
Il disparaîtrait.
Donc, pour moi, le centre n'existe pas. Il ne permet une expression que dans la nuance. Actuellement, la différence, même si Bayrou a appelé à voter Hollande aux dernières présidentielles, mais l'union Bayrou, Morin, etc., Borloo, elle se fait sur une alliance potentielle avec la droite. Donc le centre est plutôt à droite. Il est plutôt conservateur.
Le centre est de droite. Ah, voilà une bonne une phrase. Qu'est-ce que vous en pensez, Jekyll ? Le centre est de droite ?
Que le centre soit conservateur, oui, comme le PS, quoi.
Donc le centre peut être aussi de gauche.
Oui, parce que j'allais dire presque stricto sensus au niveau conservateur. Or, l'UMP sarkozyste, si on prend la définition que Gorbatchev donnait des choses, conservateur et actionnaire progressiste, eh bien, Sarkozy, il a été progressiste, ce qui n'est pas un qualificatif nécessairement positif, mais Sarkozy voulait tout changer, tout le temps, machin, etc.
Une révolution permanente.
Voilà. Or, on le voit là avec Hollande, c'est d'un côté le consensus mou, etc. Enfin bref.
Hollande est centriste.
En tout cas, il est conservateur.
Ça, mais on ne réforme pas toujours dans le sens du progrès, hein.
Ah oui, mais Sarkozy, on a fait la preuve.
Non, mais je veux préciser pour les auditeurs.
Ouais. Alors donc, notre président actuel, lui, ça serait un centriste déguisé, donc, un peu, ou même pas déguisé?
Presque à la mode d'un Léon Blum au niveau troisième force, et puis des choses comme ça, quoi.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été surnommé, comme vous le savez, Culbuto. C'est-à-dire qu'il retourne toujours au centre, le personnage revient toujours au centre. Il penche à gauche, il penche à droite, mais il revient toujours au centre, Culbuto. C'est bien ça, le petit personnage. C'est comme ça qu'on a appelé François Hollande. On l'a aussi appelé Flamby, un peu. Comme vous le savez, ça, c'était un peu plus méchant. C'était Fabius, hein, je crois, qui l'avait appelé Flamby. Donc, notre François-Hollande, bien au centre, qui rebondit tout le temps, mais vous avez vu, il y a un problème quand même. Ce centre, il ne trouve pas vraiment, dans les sondages du moins, les Français ne semblent pas apprécier ce manque de décision, ce manque de on va d'un côté ou de l'autre.
Alors, c'est là où, éventuellement, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque les Français, ils avaient fini par trouver, en quelque sorte, la formule centriste franco-française. À partir de 1986, première cohabitation, on a un président socialiste, on va avoir un gouvernement de droite, celui de Chirac. On a dit cohabitation dure, etc. Bon. Et puis, les Français, deuxième fois, en 93. Baladur. Tiens, on refait une deuxième cohabitation. Mitterrand toujours, Balladur cette fois-ci.
Et là, ça, c'est
là
pas
on a
passé.
Dit, oui, voilà, c'est une cohabitation douce, c'est plus sympa, etc. Troisième coup, les Français, hop, ils inversent. Chirac est président, Jospin. Oh, et ça le fait bien, là, pour 5 ans et tout. Au moment où les Français s'apprêtaient à inventer la cohabitation, j'allais presque dire définitive, pouf, on passe au quinquennat.
Ah oui.
Et là, on passe au quinquennat, et là, les Français, je reste persuadé de la chose. Ah bon, ok, punition, Le Pen au deuxième tour, et on vous emmerde. Ce qui a obligé les Français, enfin obligé, ils se sont sentis obligés de voter tous pour Chirac, et dont tout le monde, ou beaucoup, espérait que les 63% qui n'avaient pas voté au premier tour pour Chirac, mais ils votaient pour lui au deuxième tour, et que Chirac allait faire un gouvernement d'union nationale, bref, une troisième force, bref, un Marais, etc. Or, il l'a joué ultra-libéral avec Raffarin. Et ça rien de... Résultat, depuis 2002, l'abstention qui explose, puisque les Français n'ont plus le droit de choisir la cohabitation, hop, ça fait plus. Regardez, le sondage qui est sorti, c'était la semaine dernière. 72% des Français souhaitaient une dissolution. Si dissolution il y avait maintenant,
il y aurait forcément,
cohabitation. Forcément. Probablement, très probablement, cohabitation. Je crois que c'est un souhait profond des Français qui, justement, en cela, et Giscard avait peut-être pas tort, 2 Français sur 3 sont au centre.
Ah oui,
Alors, moi si j'espère que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui font partie de ce marais, ils ne doivent pas se marrer, justement. Si je résume un petit peu ce qui a été dit, nous aurions une gauche qui serait le vrai centre, un groupe qui se prétendrait le centre, qui serait très peu important par rapport au poids traditionnel, hein, donc n'influençant pas grand-chose, mais qui serait à droite.
Plutôt de droite.
Et en même temps, des Français qui seraient tous pour n'avoir qu'un centre, si je comprends bien, dans cette volonté de cohabitation. Décidément, la France est mal barrée.
Alors oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, House, là, il s'endort un peu, House, aujourd'hui, parce qu'il fait trop chaud dans le studio, alors on pique un peu du nez, c'est normal.
Je l'ai dit en préambule, que le centre n'était pas le centre de mon intérêt, ni de mes attentions. Non, pour moi, le centre, c'est quelque chose...
C'est pas cette tasse de thé.
Ni son Beaujolais, nous.
Non, parce que pour moi, la politique, elle est dans la... Je conçois la politique, non pas dans le consensus, mais dans le... Dans l'affrontement
des idées.
Et House, c'est la lutte des classes, et Mabuse, c'est la lutte des places.
Partant de là, une politique ne doit pas être consensuelle. Voilà. Et donc, vouloir prétendre faire le consensus, et surtout si c'est un consensus perpétuel, ma foi, ça ne donne pas obligatoirement une grosse popularité au sondage.
Voilà. Et bien,
changeons le monde électoral, comme je le préconisais tout à l'heure, et tu n'auras plus ce genre d'état d'âme.
Alors, un petit mot de check-in, on arrive à la fin.
On sera dans ces cas-là, un système typiquement américain, voire anglais ou plus largement anglo-saxon. Oui. Aux États-Unis, les républicains et démocrates, au Royaume-Uni, les conservateurs et puis les travaillistes. Du coup, ça obligerait à une véritable dichotomie. Et effectivement, là, il n'y aurait plus de place pour le centre, quoique on le voit au Royaume-Uni.
Oui.
Si les libéraux avaient été éliminés, là, ils ont retrouvé toute leur substance et ils finissent par mettre carrément le bazar. On le voit aussi en Allemagne, parce qu'il y a une espèce de dichotomie aussi, SPD d'un côté, CDU, gauche-droite, etc. Mais on voit que le FDP, depuis très longtemps, ou les Verts dans d'autres cas de figure, font cette utilité marginale qui est le centre français aujourd'hui, c'est-à-dire le Borloo, machin, UDI et tout. Mais l'utilité marginale, le plus dur dans une démocratie telle qu'on la connaît, c'est pas de faire les 48 premiers pourcents, c'est de faire les 2 derniers pourcents qui mènent à 50. Et en l'occurrence, ce centre-là. Ce fut les radicaux sous la 4ème République, de la même façon qu'ils faisaient 3, 4, 5, hein. Et sous la 3ème, ben c'est eux qui font pencher la balance ou d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, comme le disait Mabuse, le centre est plutôt à droite, d'où le fait que la droite est beaucoup plus souvent au pouvoir que la gauche.
Bon, alors voilà, on a conclu avec Jekyll, parce que c'est la fin de cette émission. Il semblerait quand même qu'il y a toujours un petit avenir pour le centre. Vous êtes d'accord? Il reste une place pour ce centre encore, hein, même si elle est marginale, on en a besoin. Alors, centristes du monde entier, rassurez-vous, vous n'êtes pas encore dans le marécage, ni dans le marais pour toujours. On a encore besoin de vous, de temps en temps, surtout pendant les élections. Alors, à samedi prochain, pour les dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Point neuf, docteur.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Point neuf, docteur.
Alors, quoi de neuf, docteur ?